Bonjour et bienvenue dans Histoire, Histoire. Une émission qui vous embarque de l'arise à la laise à la découverte de l'histoire et des légendes du Volvestre. Entre l'histoire attestée, la certifiée qu'on trouve dans les livres savants et les histoires que l'on raconte les nuits d'hiver quand les pierres fendent leurs secrets, je vous invite à une balade contée, bonne à bouleverser nos savoirs et à enchanter nos regards. Histoire, Histoire. Un podcast proposé et soutenu par l'Office du Tourisme et la communauté de communes du Volvestre.
Aujourd'hui, nous prenons la route pour nous rendre, l'âme vagabonde, au prieuré Saint-Pierre de Birac à Mayolas. Pour les béotiens du cru, et sans vouloir vexer personne, rappelons tout de même que Mayolas est LA plus grande commune du Volvestre, avec ses, accrochez-vous, 35 habitants recensés en 2020. On comprend mieux dès lors pourquoi, si Toulouse face à elle rougit encore un peu, les communes adjacentes de La Trappe, Bax et Rieux, dans le passé, se sont montrées carrément jalouses et ont tenté à plusieurs reprises, à coups de boulets de canons préfectoraux, de la phagocyter pour mieux s'en répartir les richesses. Nous étions alors entre 1792 et 1853. Mais c'était sans compter sur la ténacité des Mayolasois et des Mayolasoises qui surent préserver les pierres autant que les cloches de leur paroisse, ainsi qu'une mairie indépendante pour cet irréductible village garonnais. Passé cette introduction, comment trouver cette mégapole si discrète et son Montmartre local, le prieuré Saint-Pierre de Birac? Suivez le guide. En partant de Rieux-Volvestre, vous prenez la D25 en direction de La Trappe, Canins, et quelques lacets plus tard, voilà, vous y arrivez, vous tombez dans le panneau, Mayolas. Et là, vous le voyez, le prieuré. Il est au loin, tout au haut, tout beau, naïf et doux comme le modèle réduit d'une crèche des premiers âges. On imagine facilement qu'il est ancien. Ses premières pierres datent de l'an 1000 et sa forme actuelle du XIIIe siècle, avec sa nef basse de 12 mètres de long pour 6 de large, ses deux baies vitraillées, son chœur et son abside en arc de cercle. Ces deux cloches sonnent notre arrivée. Elle figure parmi les plus anciennes du pays. La plus grosse, de 200 kilos, est dédiée à Saint-Pierre. Elle fut coulée en 1592. L'autre, dédiée à la Vierge, est de 150 kilos. On a de la chance de les entendre aujourd'hui, car sans la foi musclée des habitants de Mayolas qui les descendirent pendant la Révolution française pour les cacher dans les bois, elles auraient probablement disparu. Mais le chemin cependant qui mène au prieuré ressemble plus à un trait tracé à la verticale sur un mur qu'à autre chose. C'est raide, et c'est tout droit. Pour vous, braves cyclistes venus à vélo, c'est pied à terre. Alors, d'un pas pèlerin, vous montez. Vous savez qu'à l'arrivée, le monastère et la chaîne bleue des Pyrénées vous attendent. Au fil de la marche, le cœur palpite, s'accélère, et quelque chose aussi monte en vous. Le sens du recueillement, l'idée d'un temps arrêté, l'écho de chants anciens et de vies plissées dans les pierres, des histoires, une rêverie. Allons au temps longtemps, lorsque vivait au château de Rieux, bien avant sa démolition et le cimetière qui le remplace aujourd'hui, le redouté Agrippa de Lorda, jadis seigneur de Castagnac et maître des fiefs de Mayolas, La Tour et Bax. Agrippa de Lorda était un homme rude, épais, broussailleux, impulsif autant qu'intelligent et fier. Chose curieuse, il était aussi père d'une fille dont la douceur et la beauté en étaient le miroir inverse. Elle s'appelait Éléane. Là où son père se murait dans le silence, aussi froid qu'une crypte en hiver, elle n'était que ouverture, chant d'oiseaux, source claire. Agrippa de Lorda la veillait jalousement. Il se refusait à penser qu'elle pût un jour quitter Rieux, quitter ce Volvestre si beau dont elle était l'émeraude. La moindre idée d'un prétendant lui faisait serrer les poings à s'en faire blanchir les phalanges. Cependant, aussi jaloux fut-il, Agrippa de Lorda ne gardait pas sa fille enfermée. Et même parfois, il lui permettait d'assister au spectacle des proto-nomades, l'ancêtre des pronomades locaux qui venaient à jouer de temps à autre. Mais voilà qu'un jour, alors qu'on fêtait les théâtrales à Rieux, Éléane fit la rencontre dans le parc des Jacobins d'un jeune seigneur d'Aulix nommé Florent. D'un échange de regards, ils se reconnurent tous deux. D'âge semblable, animés d'une grâce et d'une délicatesse identiques, remarquables parmi la foule, ils formaient d'instinct les pièces d'un même puzzle. Et c'est à cet instant précis que le dieu Amour fit son office, d'un coup de flèche bien décoché, capable au premier coup de renverser un papogaï de son poteau. Le papogaï et le poteau, c'est une tradition de Rieu-Volvestre. Bien sûr, devant un tel coup de foudre, les deux jeunes amants se promirent aussitôt un amour éternel. En revenant le soir, Eliane demanda « Père, faudra-t-il un jour que je me marie ?»«
De marier ? Ma fille, n'y songe même pas ! Le mariage est un tombeau et l'amour une peine sans retour. »«
Mais, père... »«
Baste ! Ta mère n'est plus et ton absence n'est pas une option. »
Mais le soir, accrochée à un petit caillou lancé à sa fenêtre, elle reçut le mot suivant « Cher ange, venez prier pour les vêpres à la chapelle Notre-Dame de Bonne-Garde, sur le pont d'Aurillac, au-dessus de la Rize. Je vous y attendrai. Florent. » Bientôt, tout le monde saluait la piété d'Eliane. Tantôt, elle priait aux Jacobins, tantôt à la chapelle, tantôt à la cathédrale, et tantôt à quelque calvaire lointain ou passionné, elle retrouvait qui ? Puis l'hiver vint. La campagne toute blanche était comme habillée d'un manteau d'hermine. Ce jour-là, Agrippa s'en était allé chasser dans les parages de Canins avec sa meute et ses gens. Le vent était tombé, l'air était sec et clair comme du cristal, les sentiers bordés de congères. Cet air froid dans le soleil donnait l'esprit d'aventure. Transportés par un si beau jour, nos amants, Eliane et Florent, avaient décidé de prendre le chemin des crêtes pour se rendre au prieuré de Saint-Pierre de Birac, où la vue sur les montagnes promettait d'être superbe. Ils seraient revenus avant le soir, bien avant le retour du Seigneur. Mais l'ascension ne promettait pas d'être aisée. D'autant plus pour Eliane, dont les chaussons légers ne lui permettaient pas d'accrocher la terre enneigée. « Pour se rendre au prieuré, me feriez-vous la charité de votre bras, Florent ?» Alors, ils prirent le petit sentier des crêtes, passant par la Chéline, Saint-Michel, Estampes, puis arrivés à Lavignas, ils s'arrêtèrent au point de vue, plutôt que de poursuivre directement par Bézine et Payat jusqu'au prieuré. Florent, tout fort et galant qu'il était, faiblissait malgré lui d'aider Eliane. Maintes fois, il l'avait retenu d'une glissade. Ils en riaient. Et le prieuré approchait. C'est alors qu'une corne se fit entendre. Puis des chiens. Puis une voix. Celle d'Agrippa, son père. Il les avait vus. Piquant des deux sur son cheval, il approchait. Et nul échappatoire.
« Ma fille, qui est-il ? Dites ! Parlez !»
Mais Eliane ne répondait pas.
« Saisissez-vous de lui. Excitez les chiens, je le ferai chanter, tiens !»«
Père, non !» Je voulais me rendre au prieuré, il a proposé de m'escorter, j'ai accepté.
Le connaissez-vous ?
Non !
Alors il n'est rien, tuez-le !
Non !
Et pourquoi ?
Parce qu'il est tout pour moi.
Tout pour vous ?
Il tira son épée, prêt à pourfendre en deux Florent lorsqu'au moment d'abattre sa lame, Eliane se plaça en protection devant son aimé. C'est à peine si le seigneur de Lorda put dévier le coup. Effrayé d'avoir manqué de peu de tuer sa propre fille, il s'arrêta.
Vous l'aimez donc ? Mais lui ? Vous aime-t-il aussi ? Saura-t-il vous assister lorsqu'il le faudra ? Le pourrez-vous ?
Je le pourrai.
Eh bien, soit. Pour son amour, depuis les rues du Camzor où nous sommes, jusqu'au prieuré où vous l'escortiez, vous ne sauriez laisser ma fille fouler d'un pied délicat cette neige si vile et glissante. Je suis sûr que vous aviez dans l'intention de la porter jusqu'au haut, n'est-ce pas ? Entendons-nous bien. Si vous réussissez à la porter sans vous arrêter jusqu'à l'autel du prieuré, vous l'épouserez. Mais dans le cas contraire, si elle venait à tomber, je n'en ferais pas plus de vous que cette loque de loup pantelante que vous voyez ici. »
Le jeune homme, brave, mais n'ayant d'autre choix, accepta le défi.
« Ayez courage, Florent. Pour vous, je me ferai oiseau, plume légère. »
Eliane voulut retirer son lourd manteau de peau, mais son père le lui interdit.
Juchés l'un sur l'autre, ils commencèrent à gravir la côte escarpée.
Ils avançaient. Les minutes passaient comme des heures. Malgré le froid, le front de Florent ruisselait sous l'effort. À mesure que le prieuré approchait, ses chevilles perdaient en assurance. Son souffle était devenu court sous l'effort, insuffisant. Il avait la vue brouillée par la sueur et les poumons brûlés par le froid. Il commençait à tituber d'une ivresse qui faisait mal à voir.
« Vous y êtes, mon prince, une vie s'ouvre à nous !»
Agrippa, quant à lui, se gaussait de cette torture cruelle, sûr de sa victoire. Pendant qu'en bas, plus personne ne riait. Le peuple des Bordes avait eu vent de l'atroce défi et priait pour les amants. Florent avançait, coûte que coûte. Il ne saurait faiblir, il ne saurait faillir, il ne saurait périr.
Léane aussi manquait de défaillir. Que son corps fût l'instrument des souffrances de son amour lui était une torture similaire. Qu'elle devint vent, oiseau, nuage, qu'il ne périsse point de sa faute. Enfin, le monastère, presque à portée de bras. Mais arrivé sur ce plateau consacré, quelque chose se brisa dans la poitrine de Florent. La chute ne fut pas soudaine, non, ce fut comme un affaissement de tout le corps du vaillant jeune homme. Ruiné d'efforts, il avait égrené dans le sentier tous les battements de son cœur. Ses dernières forces l'abandonnaient, et sa vie avec elle. Et Léane se précipita vers son aimé, en quête de son cœur encore battant, mais celui-ci faiblissait comme des pas qui s'éloignent, ainsi qu'une forge qu'on éteint. À entendre Léane pleurant Florent, la campagne s'était tue, les badauds s'étaient tus, Agrippa de Lorda s'était tue. De la vallée jusqu'au sommet, aucun souffle, aucune buée n'entachait le déchirant spectacle. Le temps s'était glacé dans l'instant. On dit que ce fut Agrippa qui brisa le premier. D'un coup d'épaule, il se mit à courir vers le prieuré où sa fille chérie était tombée. De toutes ses forces de père, aimant malgré tout, il courait à son secours. À en perdre haleine lui aussi. Et pendant qu'il courait, quelque chose en bas de la vallée commençait à se lever. On aurait su dire quoi? C'était à la fois massif et sourd, invisible et puissant. Une onde incomparable qui échappait à toute chose connue. La neige, soulevée par ce choc, avait pris la forme d'une vaste vague vaporeuse comme venue de Lézat, Saint-Ibar, Canins, la Trappe, qui déferlait à présent par-dessus les champs, la cime des arbres, le ciel clair. Rapide, la frange de cette vague passa au-dessus de la foule massée à Maiolas, au-dessus d'Agrippa. Haute dans le ciel, elle allait en se resserrant, en se concentrant de plus en plus à mesure qu'elle approchait du prieuré, de l'endroit où étaient tombés les amants. Lorsqu'elle s'y abattit dans une puissante nuée blanche, tous furent soufflés, projetés à terre. Agrippa observait la nuée devenir tourbillon, une étrange fleur blanche étoilée qui se mettait à briller plus intensément de seconde en seconde et passant tour à tour par toutes les couleurs du spectre. Il y eut alors un sifflement, un cri de la terre, une aspiration. Le cœur de la fleur étoilée se muait en une sphère grandissante qui pulsait de couleurs, un arc-en-ciel liquide. Enfin, pigment cristallisé, la sphère se brisa, laissant à sa place deux grands oiseaux irisés, d'une espèce inconnue. Le dessous de leurs ailes était d'un bleu lumineux, comme la soie. Le dessus, tel des flammes mêlant l'ocre, le vert et le jaune. Toutes les couleurs s'étaient comme concentrées dans leur plumage. Quand le premier oiseau se mit à chanter, le second aussitôt reprit son chant. Alors, dans le jour déclinant, ils s'envolèrent vers les Pyrénées bleues. On raconte depuis ce jour qu'Agrippa de Lorda se rendit bien souvent au monastère demander pardon et pénitence. On raconte encore que, depuis ce jour, chaque année, un couple d'oiseaux fauves et colorés revient dans les parages du prieuré. On raconte aujourd'hui que ces oiseaux s'appellent rôliers d'Europe, qu'ils migrent et sont très rares. On raconte enfin qu'un jour, on vit non plus deux, mais trois de ces oiseaux, signe que la vie, sous une autre forme, avait repris son cours. Ce conte des deux amants fut inspiré, bien sûr, par la topographie du site, mais il puise également sa source dans le blason de Maiolas, trois martinets d'or sur trois rivières d'argent. Ce blason fut d'ailleurs repris plus tard dans le magnifique tableau de Geneviève Caplet, intitulé « Mémoire d'elle ». Il est visible depuis le porche, à l'entrée du prieuré, et sa présence même est une histoire. Au mois de mai de l'an 2000, le prieuré connaît un drame. Flammes et fumée s'échappent du toit. Il brûle. La charpente, le mobilier, emporté. Seul le grand cadre en bois du porche put être sauvé. Si la croix au sommet fut changée en 1983, à la suite d'un coup de foudre, ce n'est pas ici l'amour du ciel qui fut la cause de cet incendie. Mais au contraire, les membres d'une secte satanique échauffaient sans doute d'avoir survécu au tout récent passage du troisième millénaire. Pour la remise en état, de nombreuses aides et dons participèrent au financement des travaux via une association créée pour l'occasion, ce qui permit la pose des vitraux. En 2015, soit 15 années après l'incendie, le prieuré étant reconstruit, il fut alors décidé d'employer le reliquat des fonds de l'association de restauration pour la commande d'un tableau destiné au cadre du porche. La municipalité organisa le concours, et ce fut « Mémoire d'elle », le tableau de Geneviève Caplet, qui l'emporta. On y voit ainsi les trois martinets d'or du blason de la commune, jadis celui de la famille de Martin de Viviès, qui s'échappe de l'insigne situé en bas à droite du tableau. Il s'envole et se mute en oiseau de feu, puis, à mesure qu'il gagne le ciel et les terres, se change en blanche colombe dans un flux d'air ascendant. À l'arrière-plan, coloré, entre la vigne, les épis de blé et les coteaux blonds d'été, se tient le prieuré réparé. Pour ce qui est de la vigne figurée sur le tableau, n'oublions pas qu'en langue occitane, son cep se dit Mayol. Qu'en est-il donc du vin de Mayolas? Peut-être pourrons-nous le boire un jour, à l'issue d'un concert ou d'un spectacle proposé par l'association culturelle Les Clés du Prieuré. À suivre avec autant d'attention que nos beaux oiseaux migrateurs, la programmation des Clés du Prieuré, éclectique et généreuse, profite de la magie du lieu et de sa très belle acoustique pour mieux le faire résonner dans ses histoires actuelles, passées ou enchantées.
C'était Histoire, Histoire, un podcast proposé et soutenu par l'Office du Tourisme et la Communauté de Communes du Volvestre. Écrit et réalisé par Gabriel Tamalet, en association avec la compagnie Présence Monde.
Nous remercions pour cette émission feu le général Henri Ménard, précieux historien du Volvestre et membre de l'Académie archéologique du Midi de la France, qui nous a laissé une très complète histoire de Mayolas. Pour aller plus loin, je vous invite à consulter ce document. Il est accessible en téléchargement libre sur le site de la mairie.